Chers amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude biblique consacrée au temple. Cette fois, il s'agit de voir comment nous pouvons utiliser une métaphore, par exemple celle du figuier, pour parler du temple et avoir un regard assez critique finalement par rapport au temple, par rapport à son fonctionnement. Et je vous propose de partir de l'évangile selon Marc au chapitre 11. Il y a au verset 12 à 14 un petit épisode tout à fait curieux qui, pris tel quel, peut sembler assez étrange. C'est au chapitre 11 de l'évangile de Marc, à partir du verset 12, les versets 12 à 14, je vous les lis. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que Jésus maudit un figuier parce qu'il ne porte pas de fruits alors que ce n'est pas la saison des fruits. C'est assez curieux parce que finalement, il espère que ce figuier agisse contre nature et on peut se demander pourquoi Jésus attend quelque chose qui semble contraire à l'ordre naturel des choses. Alors, quand on a un texte comme cela, la première des choses à faire, c'est d'essayer de voir si au sein du texte, il y a des éléments qui pourraient nous aider à mieux comprendre cette chose assez étrange. Et la première chose que l'on voit dans ce texte, c'est qu'on commence par le lendemain. Donc, qui dit le lendemain dit la veille. Et alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce texte dans son contexte. C'est un contexte qui semble a priori n'avoir aucun rapport avec notre épisode sur le figuier qui a des feuilles, donc ce n'est pas l'hiver. Néanmoins, ce n'est pas la saison des figues. Jésus attend des figues et évidemment, le figuier est bien en peine de lui en donner. Alors, le verset qui précède, c'est-à-dire le verset 11 de l'évangile de Marc, toujours au chapitre 11, dit: Jésus entra à Jérusalem dans le temple et quand il eut considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et donc, le lendemain, quand il sort de Béthanie, Jésus a faim et il aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles. Et donc, le fait qu'il y ait cette précision le lendemain laisse entendre que pour le rédacteur, il y a un lien, d'une manière ou d'une autre, entre le texte qui précède et ce texte-ci. Et puis, puisqu'on parle de contexte, il faut voir avant, mais il faut voir aussi après. À la fin, il y a ses disciples qui entendent Jésus dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le verset 15, qui succède à cet épisode du figuier, dit qu'ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Donc vous voyez, on a au verset 11 Jésus qui entre à Jérusalem dans le temple et au verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il y a comme une incise entre deux passages qui se passent exactement au même endroit, Jérusalem et le temple. Vous voyez, il y a vraiment des indicateurs pour dire que ce contexte est vraiment lié. Et au milieu, il y a cet épisode avec le figuier qui, s'il a été mis à cet endroit précis, est une manière de dire, on va vous donner un enseignement supplémentaire. On va en quelque sorte faire un zoom pour approfondir une question en particulier. Et donc on a Jésus qui entre au temple au verset 15, et là, alors qu'il avait tout considéré au verset 11, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple, et il enseignait et disait, N'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Et puis, ça continue au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, Regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et donc, voyez, ce qui est tout à fait significatif, c'est que non seulement cet épisode du figuier qui ne porte pas de fruits, alors que ce n'est pas la saison des fruits, et qui est maudit pour cela, est inclus dans un contexte vraiment lié à Jérusalem et au temple, mais en plus, après ce contexte, il y a à nouveau un clin d'œil au figuier, et on en a là, finalement la chute de l'histoire. Le figuier que Jésus avait maudit est en fait séché sur place, séché jusqu'aux racines. Et Pierre se rappelle ce qui s'était passé, et sans qu'on dise ce qui s'était passé la veille. Donc, le verset 20 du chapitre 11 de Marc semble dire que Pierre fait un travail de relecture des événements. Et c'est peut-être une indication sur la manière dont l'évangile a été conçu. C'est que l'évangéliste Marc, qui est certainement proche de Pierre, pense à tout ce qui a été dit, exprimé, prêché par Jésus, à un moment où il voit les conséquences de la prédication de Jésus. À un moment où il voit que ce que Jésus déclarait, révélait, annonçait, est en fait la vérité incontestable. Il y a en quelque sorte le principe de réel qui s'impose à l'évangéliste, qui se souvient que tout cela avait déjà été envisagé par Jésus lui-même. On pourrait dire que finalement, l'évangéliste confirme que Jésus avait un regard pénétrant sur les situations que l'histoire a confirmées. Cet épisode, bien évidemment, de Jésus qui chasse ses vendeurs du temple, est à mettre en lien avec ce que Jésus fait selon l'évangéliste Jean. C'est au chapitre 2 de l'évangile de Jean, les versets 4 à 16. Hein, c'est l'épisode du nettoyage du temple au début du ministère de Jésus. Alors que là, avec Marc, on est plutôt à la fin. Matthieu et Marc qui placent cela plutôt à la fin du ministère de Jésus, un peu comme une sorte d'accomplissement, un des derniers actes que Jésus pose et qui pourrait faire aussi allusion au sacrifice pascal, parce que Jean ajoute les vendeurs de bœufs et les vendeurs de brebis. Donc la question du sacrifice pascal pourrait être un peu plus précise chez Jean avec ses allusions, en précisant qu'on est sur le parvis des païens, donc sur les bas-côtés. Il faut imaginer qu'on venait acheter une offrande qui ensuite serait sacrifiée. Ça signifie en fait une sorte de spiritualité par procuration, comme si on s'acquittait d'un devoir religieux, alors que tout l'objectif de Jésus dans son ministère, c'est de faire en sorte qu'on ne joue pas la vie religieuse par procuration, mais que chacun soit en prise directe avec le sacré, que chacun soit face à Dieu que Jésus nomme le Père. Et le fait même de nommer le Père est une manière d'établir une relation interpersonnelle, là où la religiosité ambiante de l'époque pouvait nous faire penser qu'il pouvait y avoir comme possibilité de mener sa vie religieuse une délégation de service cultuel. Voilà, on donnait de l'argent, et puis ensuite, le clergé se débrouillait avec ça, et on était quitte. Eh bien, Jésus dit, non, on est quitte de rien du tout, et ce n'est pas une affaire d'argent, c'est d'abord une affaire de purification de tout ce fatras religieux pour retrouver une relation directe. Et c'est un peu comme quand on rentre dans un temple protestant de nos jours, on voit qu'il y a eu un grand ménage qui a été fait au niveau de la décoration, et notamment au niveau du mobilier, au niveau des sculptures, des peintures, tout ce qui pourrait être une accumulation de choses qui essaient de nous mettre en relation avec Dieu. Et l'architecture protestante est plutôt une architecture minimaliste qui nous met dans une sorte de face-à-face avec Dieu, sans intermédiaire, des intermédiaires qui, en fait, pourrait faire écran. Et c'est tout le problème que Jésus pointe du doigt, c'est qu'en fait, on organise une grande institutionnalisation du religieux, et cette institutionnalisation nous éloigne en fait du cœur du temple, c'est-à-dire du sacré. À chaque fois, ce sont des métaphores pour dire Dieu. Et au lieu d'être dans une relation de proximité avec le divin, on est de plus en plus éloigné jusqu'à être sur le parvis des païens, vous voyez. Et puis, cette façon de faire était aussi l'occasion, au moment d'acheter l'offrande qui allait être sacrifiée, de payer un impôt, on l'estime de 2 drachmes, donc un impôt pour le temple, qui était destiné aux prêtres et qui, là, par contre, se réglait sur le parvis des femmes. Donc, on a un contexte qui est celui d'une purification du temple et, évidemment, on peut se demander pourquoi il faut purifier le temple. Alors bien sûr, il y a l'histoire du commerce, mais il faut bien se dire que si aujourd'hui on parle volontiers de chasser les marchands du temple, c'est à cause de cet épisode-là. Et donc, nous avons l'arrière-plan biblique pour penser cette évidence qu'il faut chasser les marchands du temple, que le temple ne doit pas être le lieu du commerce du salut. Le problème, c'est pas tant d'acheter des choses que d'acheter des choses qui nous assureraient notre place au paradis, pour prendre une métaphore, notre salut, c'est-à-dire le fait d'avoir une vie en Dieu. Une vie totalement épanouie, pour le dire avec un vocabulaire plus contemporain. Il y a cet épisode qui nous parle d'un problème lié au temple avec l'utilisation de la métaphore du figuier pour essayer de dire quel est le problème profond du temple et quelle est la raison pour laquelle Jésus, en fait, va faire ce grand nettoyage. On pourrait dire qu'il y a une sorte de commentaire dans l'évangile qui est organisé par l'évangéliste Marc. Alors, pour comprendre cela, eh bien, le mieux, comme d'habitude, c'est d'aller dans le texte et d'essayer de voir ce que le texte nous dit. Alors, je propose de commencer par les versets 12 à 14, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du figuier. Donc, le lendemain, on voit que c'est quelque chose qui nous permet de nous raccrocher à ce qui précède. Ça fait une sorte de transition qui nous évite de mettre le contexte de côté. Lorsqu'ils furent sortir de Béthanie, donc c'est le lieu qui est proche de Jérusalem, c'est sur une colline, quand vous venez de Béthanie, ben justement, vous surplombez la vallée du Cédron, et puis ensuite il y a aujourd'hui l'esplanade du temple qui est tout à fait visible avec le dôme du rocher, et donc vous ne pouvez pas manquer le temple, évidemment. Donc, apercevant de loin un figuier, eh bien en fait, il faut comprendre que apercevant de loin le temple. Ce que Jésus a sous les yeux en venant de Béthanie, c'est le temple. Il a ce point de vue surplombant. Le texte de Matthieu est un peu plus simple et plus radical dans sa finale. Matthieu, lui, n'indique pas le départ de Béthanie, mais il le présuppose. Et donc, au verset 13, on a le fait qu'il y a des feuilles. Donc, on peut imaginer que l'arbre est susceptible de porter du fruit. Hein, s'il n'y avait plus de feuilles, c'est que c'est vraiment pas la saison de la floraison et donc des fruits. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il n'y a que Marc qui indique que ce n'était pas la saison. Et en grec, c'est tout à fait intéressant de noter que c'est le kairos. Donc, plutôt que la saison, il faudrait dire le moment des figues. Vous voyez, le kairos comme le moment favorable, le moment propice, l'occasion, l'opportunité, un temps à saisir. Voilà. Le kairos comme un temps de qualité, pour le dire de manière théologique, par opposition au chronos, qui est le temps quantitatif, le temps qui se déroule, un temps plutôt linéaire, plat. Le kairos, c'est du surgissement, c'est un temps qualitatif. Et c'est souvent en lien, c'est à mettre en lien avec la vie éternelle, disons. La vie en Dieu. Donc, ce n'était pas la saison des figues, ça c'est une précision de Marc. Et chez Luc, qui a aussi un texte qui concerne un peu le figuier, il y a une absence de cette indication. Luc préfère accorder un délai, c'est-à-dire il va gérer différemment la polémique. Luc est beaucoup moins radical que ne l'est Matthieu et même moins radical que Marc. Pour prendre Matthieu, par exemple, on a au chapitre 21, juste après l'épisode du temple, qui correspond hein, bien sûr à ce grand nettoyage qui est fait, à partir du verset 18, on précise le matin, En retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc vous voyez, on est dans une chronologie qui est différente de celle de Marc. Là, tout est successif. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Vous voyez, c'est soudain, c'est subi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Matthieu organise le texte différemment, parce que cette idée de la foi et puis de pouvoir réaliser quelque chose d'assez extraordinaire, par exemple de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, on va le retrouver chez Marc, au verset 23 également, avec un développement qui n'a pas été le même, puisque l'épisode du figuier et l'épisode du temple sont enchâssés les uns dans les autres. Il y a une sorte de A, B, A', B'. Et puis ensuite, la question de la foi. Et donc, c'est intéressant d'aller jusqu'à la question de la foi, parce qu'on voit que, au bout du compte, le problème du temple, c'est le problème de la foi. Et la foi, c'est la relation à Dieu. La relation à Dieu qui a un impact sur notre vie quotidienne avec l'exemple de la montagne. Donc, de loin, de l'extérieur, le temple semble verdoyant. Tout semble bien aller. Il y a les feuilles, eh ben, ça va être parfait, on va pouvoir se nourrir. Ça semble être un lieu fécond, fructueux. Et puis, en fait, on se rend compte que le figuier avec son feuillage vert, eh ben, c'est qu'un décor de théâtre. Ou plus exactement, ce n'est qu'une apparence, mais derrière, il n'y a rien. Au fin de compte, il ne porte aucun fruit. Et la pointe du texte, c'est « uden euren en aote », c'est-à-dire « il ne trouva rien en elle ».« Il ne trouva rien en elle ». C'est en fait ce qui explique tout le reste. Donc ce passage dit bien que on a un Jésus qui porte un jugement sur ce figuier qui est la métaphore du temple. Le figuier comme métaphore du temple, parce que le figuier est finalement un lieu qui est symboliquement le lieu de l'étude et de la méditation de la parole. Alors on peut, selon quelques traditions, imaginer que Adam et Ève, les personnages que l'on trouve tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, se sont cousus des feuilles de figuier lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Ce qui pourrait laisser entendre qu'ils se sont recouverts de ce lieu symbolique de la parole, alors que la parole avait été un peu prise en défaut jusque-là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tenu compte de la parole qui leur avait été adressée comme consigne pour mener leur vie dans le jardin d'Éden. Et puis, dans l'évangile de Jean, on a par exemple Jésus qui repère quelqu'un méditant la parole sous un figuier. Donc, il y a une corrélation entre la parole et le figuier. Et ce qu'il y a dans ce constat de Jésus qui ne trouve rien dans le figuier, il ne trouve rien que des feuilles, il n'y trouva rien, donc en elle, précise bien l'évangéliste Matthieu, c'est que s'il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à trouver, autrement dit, circuler. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est une manière de dire, le temple est inutile. Il est inutile de s'en préoccuper. Et cela nous aide un peu à comprendre le sens de la malédiction dont on dit que c'est ce que Jésus inflige au figuier. Est-ce que Jésus maudit le figuier au sens où le figuier était verdoyant et Jésus, par une parole à caractère magique, l'assèche? Ou est-ce que Jésus constate la nature profonde du figuier, il lui dit sa vérité, et cette vérité s'avère exacte puisque ça se réalise par la suite? J'aurais tendance à dire La parole de Jésus est une parole de jugement et pas une parole de condamnation, au sens où elle dit la vérité du figuier, elle dit la vérité du temple. Jésus constate, Jésus décrit, et au lieu de simplement décrire la situation, il donne du sens, et il révèle le sens de l'activité actuelle du temple, et c'est une activité qui va vers le déclin. Au fond, il y a un assèchement spirituel du temple qui conduit inexorablement à l'absence de fruits et finalement au fait que le figuier est entièrement desséché, jusque dans ses racines. Ça signifie que le cœur même, ou les racines, disons, du temple, n'ont plus aucune vigueur, n'ont plus aucune vitalité, n'ont plus aucune sève. On pourrait tout simplement se dire que, comme le dit Jésus, c'est simplement un lieu de commerce, le temple, alors que ce devrait être le lieu de la parole, le lieu de l'écoute, de la méditation, de la réflexion, du dialogue, du débat, tout ce que vous voulez, pourvu qu'il y ait la parole comme sève de tout cela. Alors, je reviens sur l'évangile de Marc au chapitre 11. Il y a cette indication qui est assez caractéristique. De cet épisode qui fait un petit peu la ligne de crête entre une bonne nouvelle et une condamnation. On ne sait jamais exactement de quel côté la chose se situe. J'aime cette idée selon laquelle l'évangéliste Marc précise que ce n'est pas la saison des figues et malgré tout, Jésus va chercher des figues, exige des figues. Vous voyez, il y a une sorte d'exigence de la part de Jésus qui me fait penser que c'est en ce sens qu'il est Christ. Il y a un désir de la part de Jésus qui manifeste quelque chose d'extrêmement divin et qui, à mon avis, fait de lui véritablement le Christ, au sens où il incarne ce désir divin. Ce n'est pas la saison des fruits, et alors ? Vous voyez, c'est comme si on se contentait d'une vie moyenne, d'une vie entre deux, d'une vie tiède. Bah, c'est pas la saison des fruits, bah, voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas le bon moment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne tient pas compte de cela. Il ne se conforme pas à cet ordre naturel des choses. Et j'aurais tendance à dire, Jésus est Christ en ce sens qu'il agit contre nature. Il agit contre nature au sens où il ne se suffit pas de l'ordre naturel des choses. Il institue un ordre supérieur à l'ordre naturel. Et ça, c'est à mon avis le sens même de la théologie. La capacité que nous avons à ne pas nous soumettre à un ordre naturel des choses quand il peut y avoir un surplus de justice, quand il peut y avoir un surplus de charité, quand il peut y avoir un surplus d'amour, un surplus de grâce, un surplus qui va dans le sens d'une vie encore plus jouissive. Jouissive au sens de ce qui fait du bien par opposition à ce qui fait du mal, à ce qui atrophie, à ce qui handicape, à ce qui réduit, à ce qui nous limite, à ce qui dégrade notre humanité. Donc, on se retrouve dans une situation où Jésus permet justement le passage d'une bonne nouvelle dans une situation qui est quand même assez déplorable et assez catastrophique, parce qu'il injecte un désir dans cette situation-là. Et c'est ce désir qui va réorganiser la situation, en fait. À la fois en précipitant ce qui est sur le déclin, mais non, pas du tout. Ce qui est sur le déclin suit sa mauvaise pente, tout simplement. Ceux qui se privent de cette source vivifiante, bah, au fond, s'infligent leur propre condamnation. Jésus, dans cette pente inexorable vers le déclin, vers l'anéantissement, offre finalement une alternative. Un autre ordre du monde est possible, parce que même si ce n'est pas la saison des figues, eh bien, nous sommes en droit d'attendre des figues. Donc, nous sommes en droit d'attendre quelque chose de spirituel du temple, même quand ce n'est pas l'heure du culte. Et c'est comme si on ne devait pas limiter l'activité cultuelle, l'activité du temple, l'activité d'une église, l'activité d'une religion, à sa célébration dominicale ou à sa célébration cultuelle, à son office hebdomadaire ou les fêtes carillonnées. la vie spirituelle n'est pas à limiter à la saison, c'est-à-dire à l'ordre naturel, à ce qui a été organisé depuis toujours. On n'est pas obligé de se conformer à un modèle d'autrefois. Il ne s'agit pas de se limiter à ce qui a toujours été fait, à ce qui a toujours été vécu. Donc, cette métaphore classique du figuier nous permet un premier enseignement sur le temple, l'activité religieuse telle qu'elle est comprise aujourd'hui. C'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'opposition entre l'apparence et l'intériorité, entre le caractère brillant à l'extérieur, et on peut avoir des bâtiments qui sont magnifiques, mais l'intérieur peut être finalement d'une sécheresse infinie. Il peut y avoir une sécheresse intérieure, alors qu'il y a peut-être même une exubérance extérieure. Et on peut penser à ce qu'écrivait Jean Calvin. Il disait justement à ce sujet que Jésus a voulu montrer par signes externes en cet arbre quelle issue auront finalement les hypocrites et qu'en découvrir combien leur ostentation, à savoir les feuilles, est vaine et sotte. Donc c'est une parole de jugement sur les hypocrites qui ont une allure de façade extrêmement sympathique, attractive, brillante, mais qui en fait sont vides, sont vains. Ce sont des sots au sens de la sottise. Vous voyez, et pas grand-chose à attendre d'eux, pas grand-chose à espérer d'ailleurs. Donc, ce que nous voyons dans cet épisode du figuier, c'est à la fois une exigence qui dépasse infiniment ce à quoi nous sommes habitués, à l'ordre naturel des choses, et puis en même temps, ce refus d'une habitude, ce refus d'une soumission volontaire peut-être. On a chez Marc et chez Matthieu, mais plus précisément chez Marc, donc une sorte de résistance à cette banalité de la médiocrité. Voilà, c'est le refus de la médiocrité, le refus du vulgaire. Chez Luc, ce qui est intéressant avec sa parabole du figuier que l'on trouve au chapitre 13, les versets 6 à 9, c'est qu'il y a une topographie qui est tout à fait différente. Je vous lis les versets 6 à 9 du chapitre 13 chez Luc. Donc Jésus qui dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et vous voyez, c'est cette idée que le temple est au milieu du peuple. Le figuier, c'est donc la métaphore du temple. La vigne, c'est la métaphore du peuple. Et on a donc ce temple au milieu du peuple, ce qui est d'ailleurs le cas à Jérusalem. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. » Coupe-le. Vous voyez, quelque chose d'assez radical. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça, c'est assez pragmatique. On veut du rendement. Et Luc, qui est vraiment pas un polémiste, qui, dans les Actes des Apôtres, atténue toujours les conflits qu'il y a entre les différentes communautés, toujours un peu sur un registre euphémique, fait dire au vigneron, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, on temporise. Il occupe une place inutile. Ça signifie qu'il épuise le sol, en fait. Pourquoi épuise-t-il donc le sol? Cette version pragmatique, c'est ce qui n'est pas utile doit être coupé, même si c'est un acte de grâce. Un figuier au milieu d'une vigne, après tout, c'est certainement pas le choix d'un vigneron, mais un surgissement de la grâce. On n'imagine pas d'installer un figuier au milieu de la vigne, surtout de nos jours avec la mécanisation de la vigne. Ça serait extrêmement contre-productif. On a là, disons que si on veut garder un peu cette figure champêtre, quelque chose d'inattendu qui a surgi au milieu de la vigne, et le vigneron a estimé qu'il y avait une opportunité à saisir, et pas de raison de couper le figuier. Après tout, cette situation assez inédite, originale, extraordinaire, pourrait apporter un surplus de vie. Dans le registre de la métaphore, évidemment, il ne faut pas imaginer que c'est un surgissement de la grâce. C'est une organisation qui nous est donnée. Le temple est au milieu du peuple, un peu comme le centre névralgique. Alors, bien sûr, ça relève de la grâce, mais ce n'est pas inattendu. Le temple a été construit de main d'homme. Il n'y a pas de problème. C'est quand même d'abord une activité religieuse, une activité humaine, culturelle. Et donc, c'est plutôt pour nous dire que ce temple est finalement le centre de la vie, comme l'était autrefois l'arbre de la vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la version d'Adam et Ève. Et donc, on a une métaphore qui est assez semblable à celle de Genèse 1, avec l'organisation de la vie autour de cet arbre, hein, qui est vraiment central. Et puis, on a ici le propriétaire, l'homme qui avait planté un figuier dans sa vigne. Donc vous voyez, c'est pas un hasard s'il y a un figuier dans la vigne. Et pour lui, la grâce doit être efficace. Sans quoi, il est juste que on retranche le moyen de la grâce. Donc on pourrait dire, il y a un caractère conditionné des effets de la grâce. Si la grâce n'est pas efficace, au fond, soit c'est pas la grâce, soit il faut retrancher. Mais couper, c'est aussi une expression sacerdotale qu'on retrouve beaucoup dans la Bible hébraïque au sujet de tout ce qui est toxique dans une société. Par exemple, on va couper un meurtrier de la société, du peuple, pour éviter que le mal dont il est porteur se répandent, hein, et que ça provoque une tentation du mal. Donc, souvent on retranche, on coupe, hein, c'est le verbe karat en hébreu, pour protéger la société, une mesure conservatoire. On pourrait dire qu'on met en prison des personnes qui risquent de menacer encore et encore la société. Donc, on coupe, on retranche de la société, parfois même on retire les droits civiques pour empêcher que la personne, par son vote, influe le cours de l'histoire de la société. Et donc, couper le figuier, c'est une façon de dire, ce qui est devenu toxique, il faudrait le couper, le retrancher pour éviter que ça empoisonne l'ensemble de la société. C'est vous dire, si la critique est extrêmement violente, hein, Jésus est en train de dire, finalement, que le temple, actuellement, le temple qu'il a sous les yeux, est toxique et que la meilleure des choses à faire, c'est de le retrancher de la vie commune. Donc, dans l'évangile de Luc, il y a cette idée qu'il faut essayer de sauver le temple avant d'en passer à la méthode radicale qui consiste à le couper. Une période propice au changement, une période propice à la conversion, à une conversion possible par de nouveaux soins prodigués. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en utilisant la métaphore végétale, on en vient à l'idée du fumier. Et au fond, le fumier, vous voyez, c'est-à-dire le crottin avec de la paille, etc., les déchets, hein, tout ce qu'il y a de moins considérable, de moins honorable, de moins vénérable dans la société, c'est au fond ce qui serait utile pour revitaliser le temple. Et ce n'est pas inintéressant parce que si on essaie de transposer cette métaphore à la question du temple, on peut se dire que ce qui va faire la vitalité du temple, aujourd'hui, la vitalité d'une communauté religieuse, c'est pas l'or, c'est pas la richesse, c'est pas l'argent, c'est plutôt le fumier. Et qu'est-ce qui est le fumier aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce sont les couches les plus populaires de la société. Je dirais même les couches sous-populaires, tous ceux qui sont en difficulté majeure. Les sans-domicile fixe, bien entendu, peut-être aussi les personnes qui viennent pour trouver un refuge, les réfugiés climatiques, les réfugiés politiques, les réfugiés économiques, toutes ces personnes qui sont aussi dans des situations extrêmement précaires, travailleurs pauvres, étudiants éloignés de leur famille, au fond, toutes les personnes qui sont menacées de disparition. Toutes les personnes qui sont sans dents, disait-on il y a quelques années, sans face, sans voix, toutes les personnes qui manquent, toutes les personnes qui sont en manque, toutes les personnes qui sont déconsidérées, toutes les personnes à qui on n'adresse plus la parole, à qui on n'adresse plus un regard, toutes ces personnes qui peuvent imaginer qu'au fond, elles ne connaissent qu'une sous-humanité eh bien, c'est peut-être ces personnes-là qui sont en mesure de pouvoir revitaliser le temple. Pourquoi? Parce que ces personnes sont le réel. Ces personnes ne peuvent pas s'embarrasser avec une sorte d'hypocrisie. Elles n'ont plus la possibilité de paraître. Elles sont ce qu'elles sont. Ou plus exactement, elles paraissent ce qu'elles sont. Vous voyez, il n'y a pas d'écart entre ce qu'elles sont fondamentalement et ce qu'elles donnent à voir. Elles ne peuvent pas jouer un rôle. Elles n'ont plus les moyens de donner le change, en quelque sorte, ou momentanément. Et donc l'Église qui accueille ces personnes-là est au contact de personnes réelles, contrairement à ce que nous sommes capables parfois de faire en société, c'est-à-dire de jouer le jeu social, de donner la bonne apparence. Et quand on nous demande si ça va bien, bah oui, on peut dire que ça va bien, alors que c'est peut-être l'effondrement total. Donc accueillir les personnes les plus défavorisées, c'est accueillir des personnes qui ne vont pas travestir les choses. Et du coup, le discours de l'Église doit être extrêmement efficace au sens de la vérité et de la justesse pour qu'il soit audible par ces personnes qui ne peuvent pas simplement se contenter d'un discours religieux qui serait chic, qui serait agréable, une sorte de poésie esthétique, mais qui ne serait pas du tout en phase avec le réel. Disons-le plus clairement, si l'Évangile n'aide pas ces personnes à vivre, et ben en fait, ça sert à rien. On est dans la situation du figuier stérile qui ne porte aucun fruit. Vous voyez, on peut avoir une vie spirituelle qui est finalement une sorte de loisir récréatif, exotique, et puis une sorte de luxe. Au fond, on peut s'offrir le dimanche matin une heure de culte qui ne sert à rien, si ce n'est à montrer qu'on peut dépenser notre temps à ça. Voilà. On peut même dépenser notre temps pour rien. Ce qui en fait est assez sympathique, mais qui traduit aussi une forme de luxe et de richesse que tout le monde ne peut pas s'offrir. Et donc il y a des personnes qui sont tellement en manque de tout que si elles viennent dans une institution religieuse et que ce qu'elles entendent ne les aide pas à vivre, alors on peut dire que cette institution religieuse est comme ce figuier. Peut-être qu'il est verdoyant, mais au fond il n'offre rien à manger, aucune figue, il n'offre aucune parole qui aide à mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre ce que nous sommes appelés à vivre, mieux comprendre quelle pourrait être notre vocation, pour le dire d'une manière un peu philosophique, pour mieux comprendre ce que l'on est encore en droit d'espérer, ce qui est possible pour aujourd'hui et pour demain. Donc, le changement et la fécondité sont envisagés par l'apport de fumier, par l'apport des déchets, par ce que la société rejette. Et vous voyez, c'est là aussi une sorte de conversion, un peu comme la pierre d'achoppement qui devient la pierre d'angle, ou si on le disait avec l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, le corps a besoin du plus petit de ses membres ou de celui qui est le moins noble. Et sans cela, ben, au fond, le corps ne fonctionne pas très bien. Et si une église, un temple, un figuier n'est pas capable d'accueillir le plus modeste de ces éléments, l'oligo-élément en quelque sorte, le plus petit des éléments, le moins noble en tout cas, et bien en fait, c'est qu'il n'est plus viable, c'est qu'il n'est plus le temple, c'est qu'il est desséché, c'est qu'il est déjà mort, c'est qu'il est bon à être coupé effectivement. S'il ne peut rien faire du fumier, alors en fait, autant le couper. Et ça, je pense que c'est une parole de jugement extrêmement précieuse et nécessaire pour toutes nos communautés, y compris nos communautés non religieuses. On peut penser à une société, on peut penser à la République française. Si elle n'est pas capable de se nourrir de son fumier, si elle n'est pas capable d'être finalement comme ce coq bien posé sur son tas de fumier, mais pour en tirer sa sève, non pas comme on instrumentalise le fumier, mais comme le fumier fait partie intégrante et va pouvoir se métamorphoser en figue. Hein, l'idée, c'est cela, c'est que le fumier se métamorphose dans ce grand système de vitalisation. Et bien, dans ce cas-là, autant couper. Donc, c'est une fertilisation par le bas de l'échelle sociale qui est subverti par l'Évangile. On pourrait parler même d'ascenseur social parce que le fumier va monter dans le figuier, voyez. Il y a des idées extrêmement modernes, prémodernes même, dans les textes bibliques, et on le voit bien ici. Alors, est-ce que Jésus maudit le figuier? Est-ce qu'il le punit? Est-ce qu'il le condamne? Est-ce que c'est la parole de Jésus qui assèche le figuier? Hein, comme je vous le disais, je vous laissais entendre, on peut se dire, en tant que Messie, est-ce que Dieu a châtié Israël et est-ce que c'est lui qui a détruit le temple? C'est un peu la question qui devait se poser au moment où les évangélistes écrivent, c'est-à-dire après la destruction du temple en 70 par l'armée romaine. Moi, il me semble qu'il vaut mieux entendre Jésus qui, en tant que prophète, dit la vérité d'une situation. Il révèle la vérité du temple, de la religion juive, de la nôtre aujourd'hui, et il en tire les conséquences. Et au fond, il met en perspective l'attitude du peuple. Il ne fait que décrire en projetant les conséquences des actes présents. Le figuier est devenu stérile, il ne portera donc plus de fruits. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat. Comme lorsqu'on dit d'une voiture qu'elle est foutue. On ne peut plus la réparer, ou l'orgue du temple de Maglone, bah, il est foutu, on ne peut plus le réparer, il faut en créer un autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut d'ailleurs s'investir, publicité gratuite, n'hésitez pas. On ne peut plus le réparer, il faut passer à autre chose. Et donc, c'est comme cela que l'on peut comprendre, à mon avis, la parole de Jésus, qui dit il ne portera plus de fruits. C'est un constat, c'est descriptif, c'est pas normatif. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est de voir qu'il avait des feuilles et qu'on n'y trouve rien. Et en grec, le terme que nous avons là, c'est phylla. C'est un terme qui me fait penser au latin folia, folia, la feuille. Hein, la feuille, folia, c'est aussi ce qui donne la feuille du livre. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte de polémique contre les Sadducéens, qui sont les gardiens du temple, et donc les gardiens de la Torah, les gardiens du livre. Alors la Torah, évidemment, c'est un rouleau, mais il faut penser au fait qu'on arrive dans une période où on va écrire sur le papyrus, on ne va plus forcément écrire sur des rouleaux, mais sur ce qu'on appelle des codex, donc des livres. Et je me demande si les prêtres qui ont transmis le texte qui va devenir canonique dans le judaïsme au IIe siècle, hein, donc on est en plein processus de canonisation de la Bible hébraïque, le Nouveau Testament, ça viendra évidemment plus tard. S'il n'y a pas une polémique qui reprend l'opposition entre les Sadducéens et les pharisiens, c'est-à-dire entre la Torah écrite et la Torah parlée. Aujourd'hui, on a les deux, mais qu'est-ce qui est vraiment normatif? Est-ce que c'est le texte ou est-ce que c'est l'interprétation du texte? Et au fond, on peut avoir des feuilles, on peut avoir une Bible et n'en faire aucun usage. Vous savez, c'est cette excellente expression de Victor Hugo, certains ont une bibliothèque. Comme les eunuques ont un harem. On rejoint le thème de la stérilité du figuier. Au fond, il y a derrière la question du temple, la question du texte également. Et ça se comprend puisque je vous disais que le figuier était le lieu symbolique de la métaphore de la parole. Et donc, si le temple n'est plus le lieu de la méditation de la parole, ça signifie qu'on a le texte, ok? On peut même défendre le texte bec et ongles, on peut être extrêmement littéraliste, on peut défendre la lettre du texte. Mais au fond, pour faire quoi? Peut-être pour blesser, peut-être pour accuser, peut-être pour dénoncer, peut-être pour tuer même. Mais est-ce qu'on fait vivre avec ce texte? Et c'est toute la question qui se pose au texte biblique, c'est toute la question qui se pose d'ailleurs actuellement au Coran. Le Coran, il sert à quoi? La Bible, elle sert à quoi? Est-ce qu'elle sert à accuser? Est-ce qu'elle sert à stigmatiser? Est-ce qu'elle sert à cliver? Est-ce qu'elle sert à assassiner? Ou est-ce qu'au contraire, elle donne la parole au dynamisme créateur de Dieu? Est-ce que c'est ce qui nous rend plus vivants, plus aimants, plus généreux, plus fructueux comme le figuier? Ça, c'est une vraie question qui se pose et ça reprend le vieux clivage entre sadducéens et pharisiens. Et il n'est pas impossible que Jésus se positionne dans ce clivage-là. Donc, des feuilles, mais pas de fruits, c'est le risque d'une Bible devenue elle-même stérile. On peut lire la Bible pour confirmer ce que l'on sait ou ce que l'on croit, et ça, c'est un usage stérile. On peut lire la Bible juste pour savoir répéter les histoires sans comprendre les messages qu'elle véhicule. Ah, on peut savoir la Bible par cœur sans la connaître en fait. On peut faire des combats de versets bibliques qui sont, mais on ne peut plus stériles. Hein. La guerre des versets bibliques, je te sors un verset biblique, je t'en sors un autre. Le nombre de fois où ça arrive sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien d'autre que d'attiser la haine de l'un contre l'autre. On peut aussi lire la Bible pour se justifier ou pour accuser autrui. Or, la Bible, c'est une lecture que l'on fait pour découvrir la vie en Dieu, qui n'est ni ce qui nous arrange, ni ce que la majorité des gens en disent. La Bible, elle n'est pas là pour nous conforter. Elle n'est pas là pour, elle est même pas là pour nous rassurer, en fait. Elle n'est pas là pour nous établir dans nos certitudes. Et on peut se dire que le temple et l'activité religieuse peuvent être tout à fait stériles parce qu'hypocrites. Un temple peut fonctionner à plein régime, avoir un calendrier d'activité plein, mais en fait tourner à vide. On peut avoir quelque chose qui est extraordinairement important en termes de quantité et une qualité nulle. Mais alors, 0, nul. Et c'est cela que Jésus stigmatise finalement. Hein, c'est cette capacité à avoir des milliers de pages dans une Bible, à avoir des dizaines d'activités dans sa vie paroissiale, et puis au fond, oublier l'essentiel. Ne pas faire de théologie, par exemple. Bon. Donc, on a ces avertissements de Jésus. Et puis, j'aimerais continuer quelques petites explications. Par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, donc, hein, il y a au verset 16 l'interdiction qui est faite de transporter des objets à travers le temple. Alors ça, c'est très étonnant. Certains pourraient penser que c'est parce que le jour du Shabbat, il ne faut pas transporter quoi que ce soit. Il est interdit de travailler, donc il est interdit de transporter. Je pense que c'est plutôt l'interdiction d'utiliser le temple pour couper à travers la ville. Parce que comme le temple est au milieu de la ville, eh bien on peut utiliser le temple pour gagner du temps. Plutôt que de faire le tour quand on est un peu chargé en plus, on coupe à travers le temple. Et c'est, je crois, non pas pour enquiquiner les gens que Jésus dit cela, mais pour dire, il faut retrouver le caractère intégralement ultime de ce lieu, se reconnecter avec ce qui a un caractère ultime, absolu, divin, sacré, quel que soit le terme que vous employez, ce qui va transcender notre vie quotidienne. Donc, si un temple doit être un lieu familier, je dirais même un lieu pour la vie quotidienne, il ne faudrait pas que ce soit un lieu qui laisse indifférent. Vous voyez, juste un passage, juste un raccourci. Je pense que le temple fait gagner du temps, en fait, mais pas quand on porte des charges lourdes. Ça nous fait gagner. Parce que sinon, finalement, ça serait extrêmement inférieur à ce que peut nous offrir un temple. Vous voyez, si on utilise un temple juste pour gagner du temps, gagner 5 minutes là pour un trajet. C'est un peu comme cette femme cananéenne que Jésus, enfin samaritaine que Jésus croise autour d'un puits dans l'évangile de Jean. Et quand on lui parle de boire, et ben elle se dit, voilà, on boit, et puis on aura soif encore dans une demi-heure, on boira à nouveau, pas de problème. Jésus dit, tu n'auras plus jamais soif. Et on gagnerait du temps d'une façon ultime, d'une façon eschatologique, pour le dire avec un verbe, avec un terme théologique qui parle de la finalité. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de gagner du temps temporairement pour une réalité seconde, je sais pas, vous avez quelque chose de lourd à transporter, hop, vous passez à travers le temps, ça vous fait gagner vous passez à travers le temple, ça vous fait gagner du temps. Eh bien là, c'est par rapport aux finalités, savoir le sens ultime de notre vie. Et au fond, il faut prendre le temps de savoir pourquoi tout ça, à quoi ça nous mène. Eh bien, le temple est là pour vous faire gagner du temps de réflexion sur le sens de la vie. Pas attendre la veille de notre mort pour savoir ce qu'aurait dû être notre vie. Donc, pour éviter les regrets, peut-être éviter les remords aussi, le temple est là pour clarifier un peu ce que pourrait être le sens de notre vie et ce que pourrait être notre destination. Et du coup, le bon itinéraire. À nous de trouver le bon itinéraire en fonction de la destination que l'on veut. Et donc, on ne traverse pas le temple avec des objets qu'on transporte pour gagner du temps. On traverse le temple, on se rend au temple pour gagner du temps par rapport à notre existence et pas par rapport simplement à un petit bout de notre vie. Le verset 17, le verset qui suit, consiste finalement à rendre la maison à sa vocation initiale. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, c'est le terme oikos qui est employé. Ça serait le terme beit en hébreu pour la maison. C'est amusant de se rappeler que en 2 Samuel 7, quand David constate qu'il est bien logé et que Dieu habite sous une tente, il dit qu'il va construire une maison pour Dieu. Et puis en 2 Samuel 7, il y a l'oracle de Nathan qui dit qu'en fait c'est Dieu qui va créer une maison pour David au sens d'une dynastie, hein, une maison à caractère symbolique, figuré. Et on est dans ce jeu de rendre la maison de Dieu à sa destination première, sa destination initiale. Et donc, voyez, la prière proséké, qui consiste à parler à une divinité, ça peut être le cœur même de la finalité de la maison de Dieu, de la maison telle qu'elle avait été envisagée à l'époque de David, qui sera finalement réalisée selon les textes bibliques par Salomon, mais ça c'est pour la narration biblique. Et du coup, ça donne à l'action de Jésus un caractère de purification, par exemple, suite à une profanation. On a eu ça par le passé, par exemple, quand Antiochus Épiphane avait sacrifié aux idoles en 167 avant notre ère. Et on avait dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 4, les versets 44 à 46, l'attente du Messie pour qu'il purifie cette injustice, cette iniquité. Et puis, il y a Pompée aussi, en septembre 63, qui a profané le temple, et on l'a dans ce qu'on appelle les psaumes de Salomon. Je vous lis cela dans les psaumes de Salomon, on l'a le psaume 2, le psaume 8, on trouve ça dans les écrits apocryphes. Je vous fais la citation. Des peuples étrangers sont montés à ton autel, ils s'y sont promenés avec leurs chaussures orgueilleusement, parce que les fils de Jérusalem ont souillé le culte du Seigneur, qu'ils ont profané les présents offerts à Dieu par des iniquités. Et du coup, ça continue, le temple est devenu rien devant Dieu, il a été déshonoré jusqu'au dernier point. Et du coup, s'il est devenu rien devant Dieu, ça veut dire qu'en fait il est devenu sec, il est devenu comme le figuier, pour reprendre la métaphore végétale. Et puis, dans les antiquités juives, donc là c'est Flavius Josèphe, on a au livre 14, paragraphe 4, dans ce malheur des Juifs, le plus grand des malheurs, c'est la profanation commise au sujet du sanctuaire, resté jusqu'alors inaccessible et invisible. Pompée, avec un grand nombre de ses soldats, pénétra dans l'intérieur du sanctuaire. Ils y virent ce qui n'est pas permis à aucun homme de voir, sauf au grand prêtre. Il y avait là la table d'or, les coupes pour les libations, une grande quantité de parfums et, dans les trésors sacrés, environ 2000 talents. Et donc, il y a cette idée de restaurer un lieu qui a été profané. Dans les psaumes de Salomon, on a l'idée que Dieu écrasera ceux qui ont profané le temple, que le malheur est provoqué aussi par l'infidélité d'Israël, et qu'il faut réparer le dommage causé par le massacre de 12 000 juifs dans le temple, et que cela se fait par l'attente d'un roi purificateur. Mais dans les textes synoptiques, on ne prend que l'exemple du commerce comme impureté. Et puis, on n'est pas dans le règlement de compte où il faut écraser le coupable, etc. On est plutôt dans le registre de l'action de vérité pour essayer de retourner à la fonction originelle du lieu. Matthieu intercale un geste de purification, d'ailleurs, qui est assez intéressant. Jésus soigne les aveugles et les boiteux qui s'exclament par Hosanna, hein, c'est l'acclamation du Messie, fils de David, par les enfants qui ne sont pas soumis au pouvoir des prêtres et qui expriment une vérité qui leur échappe. Il y a quelque chose d'assez sympathique chez Matthieu, c'est au chapitre 21, les versets 12 à 21, je vous relis la version, enfin je vous lis la version de Matthieu. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et là, il y a une citation, Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, il les guérit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au Fils de Dieu! Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Et donc, on a une citation du psaume 8 qui est citée pour le verset 3 dans un sens polémique, avec les enfants qui chantent la gloire de Dieu pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Et donc, c'est assez stupéfiant parce que les enfants qui sont porteurs d'une vérité qui leur échappe, mais qui est aussi incontrôlable par le pouvoir en place, est une vérité dont le peuple a cruellement besoin et dont les responsables religieux ont cruellement besoin. Vous voyez cette parole de l'innocence, cette parole candide peut-être même un peu. Donc ce sont ceux qui ne sont pas dans un rapport de force, dans un rapport de soumission, dans un système de domination, qui sont à la fois proches de la vérité et capables d'accueillir le règne de Dieu par la figure du Messie qui sont en jeu. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi cette invitation souvent faite à laisser venir les enfants, c'est qu'il y a une sorte de candeur qui n'est pas cette innocence originelle, mais qui est en tous les cas une façon originale de se placer par rapport aux logiques de pouvoir et aux logiques de domination. Il y a quelque chose qui relève vraiment de la grâce parce que les enfants ne sont pas encore forcément contaminés tant qu'ils n'ont pas été trop impressionnés par les parents, tant qu'ils ne sont pas trop soumis à l'ordre parental. Il peut y avoir une sorte d'audace, une sorte d'imprudence de la part des enfants qui est juste, qui est fondamentalement juste, qui est extrêmement évangélique. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, tout à fait décisive dans la parole. Je reviens sur la question du temple purifié, cette fois chez Luc. Chez Luc, c'est au chapitre 19, les versets 45 à 48. Il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant: Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Hein. Donc on reprend souvent cette même rengaine. Et ensuite, on a quelque chose d'original. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration, avec cet étonnement philosophique finalement. Si le commerce du temple est indispensable et si on veut que tout le monde ait accès au rituel, hein, je veux dire par là qu'il faut bien qu'il y ait des rentrées d'argent. Nous, notre Église a besoin de votre argent, donc vos offrandes sont les bienvenues. N'hésitez pas à faire une offrande nominative, parce que si on n'a plus de quoi nourrir à la fois la réflexion théologique, nourrir la méditation spirituelle, pour qu'il y ait des gens capable de transmettre les enseignements reçus de nos anciens, mais aussi pour organiser la vie religieuse. Vous voyez, on a besoin de lieux pour se réunir, et les temples sont destinés à cela. À la fois, il faut des enseignants, des docteurs, il faut aussi des pasteurs, il faut des diacres aussi, des gens qui rendent service. Et puis des anciens, des presbytres qui sont là pour organiser justement, pour faire en sorte que les choses soient possibles. Donc si on n'a pas de moyens matériels, eh bien au fond, il peut y avoir une rupture dans l'ordre de la transmission, de l'éveil de la foi et de la communication des choses utiles pour être soi-même dans une attitude croyante. Donc le commerce ou l'économie du temple est nécessaire. Il doit y avoir une économie. Il faut qu'il y ait des ressources économiques. Si on veut que tout le monde ait accès au rituel. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans l'organisation d'une église protestante aujourd'hui, c'est qu'il y a des paroissiens qui sont membres de l'association cultuelle, qui donnent de l'argent, beaucoup d'argent, et cet argent est mis à profit d'une présence de l'église pour offrir l'évangile à tout le monde. Même à ceux qui ne donnent rien et qui n'entendent rien donner et qui ne donneront jamais rien. Il y a une responsabilité des paroissiens vis-à-vis d'autrui. C'est vraiment le sentiment qu'il faut faire quelque chose de son prochain, quelque chose dans le sens de l'évangile. Bon, et même si c'est pour que des personnes ne viennent que lors des grandes fêtes, notamment lorsqu'il y a la célébration de Pâques. Hein. Et donc, pour qu'il y ait les offices de Pâques, comme autrefois il y avait le sacrifice de Pâques, eh bien, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'investissent financièrement aussi. Alors la question c'est, en quoi y a-t-il profanation du temple? Bien, en renversant les tables et puis en chassant les marchands qui sont dans le temple, Jésus s'en prend à une nouvelle partie du judaïsme. C'est-à-dire qu'après avoir croisé le fer avec les scribes, avec les pharisiens, bah, il va sur le terrain des prêtres gardiens du temple, les sadducéens, qui en fait faisaient un véritable commerce, comme on le voit d'ailleurs des fois de nos jours, avec des responsables religieux qui ont des villas somptueuses et parfois même un patrimoine immobilier extravagant, et qui vivent sur le dos de la bête, pour le dire un peu rapidement. Et donc Jésus intervient sur le cœur visible de la foi juive, le temple. Il constate que sa destination bien, n'est plus conforme à la réalité de son usage, hein. C'est un rapport hypocrite, les finalités ne sont plus du tout suivies, il y a une perversion du lien qui n'est plutôt un endroit pour le nom de Dieu, mais pour le grand prêtre. C'est le grand prêtre qui se fait un nom. Et Dieu, finalement, est devenu une sorte de faire-valoir, c'est devenu le marchepied. Et vous voyez, il y a un retournement qui nécessite un autre retournement. On est passé de l'intérêt général à l'intérêt de caste, voire à l'intérêt personnel. On amasse pour son propre intérêt. Là où le temple est un lieu pour tous, pour toutes les nations, et on a, par exemple, cette image universelle du début du livre d'Ésaïe au chapitre 2, avec cette vision de tous les peuples qui vont vers Sion, d'où sort la Torah. Donc on est bien dans cette perspective du temple au milieu de la vigne. Eh bien en fait, d'un point de vue technique, les chefs des prêtres ont trahi la signification eschatologique du temple. On n'a plus les bonnes finalités. Au lieu d'être un lieu d'une rencontre possible avec le sacré, eh bien, c'est devenu une entreprise pour obtenir des liquidités. Au fond, le temple est devenu une machine à cash. Et ça, c'est insupportable. Au lieu de l'adoration de Dieu, on adore la finance. Or, si on reprend le premier livre des rois au chapitre 8, avec le temple de Salomon, eh bien, on retrouve le véritable sens du temple, une maison pour le nom de Dieu, et on le voit dans la suite, au chapitre 9, les versets 3 à 7, c'est la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, la relation à Dieu. Donc, si on pense le temple indépendamment de cette finalité, de cette eschatologie, alors effectivement, on se retrouve dans une situation où il vaut mieux couper le temple, même après avoir pris soin de lui plusieurs fois, comme le propose Luc, ou tout simplement avec Marc et Matthieu, se dire, bon, bah, de toute façon, il meurt de sa mort, il meurt par là où il a péché. Il est sec, et bien en fait, il s'assèche, il est en train d'assécher tout le monde, et bien il sera sec et il tombera tout seul. Et puis, vous voyez, je vous avais dit à un moment donné que cela est en rapport avec la foi, puisque ça continue sur un discours relatif à la foi, une foi capable de dire à une montagne « ôte-toi et jette-toi dans la mer ». Eh bien, la question c'est, faut-il avoir foi en Dieu ou faut-il avoir la foi de Dieu? Hein, c'est au verset 22 de l'évangile de Marc au chapitre 11, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez, donc, ekete pistin teou », donc, « Ayez une foi de Dieu » ou une foi en Dieu. Ça peut être la foi de Dieu. Et ça m'intéresse qu'on puisse avoir une foi de Dieu, parce que, vous voyez, ça relève la question de la foi. Parce que la foi en Dieu, finalement, ça nous donne souvent l'occasion de dire, bon, ben voilà, chacun a la foi qu'il peut, faut être tranquille, ayez une foi à votre mesure. Non. Ici, si on est appelé à avoir une foi de Dieu, c'est une foi démesurée, une foi transcendantale. C'est la confiance dans la vie fidèle à ce que Dieu désigne. C'est pas simplement une foi de catéchisme, considérer que oui, ce qui est dit dans la Bible est juste, c'est vrai, peut-être que ça n'a pas trop de rapport avec ma vie, peut-être que ça marche pas exactement comme ça, mais c'est ça qu'il faut croire, c'est ça qui fait que je suis un bon chrétien. Non, non, non. C'est une adhésion à la puissance de vie désintéressée. C'est ça que j'appellerais la foi de Dieu, la grâce. Non pas chercher son intérêt personnel, mais chercher l'intérêt général. Dieu, c'est ça. C'est Dieu qui ne fait exception de personne. Dieu qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, mais aussi celui qui s'intéresse à la veuve, l'orphelin et l'immigré. Et du coup, le temple, en tant que maison de Dieu, eh bien, c'est un lieu pour apprendre ce décentrement et pour aborder la vie de manière positive, fructueuse, féconde, fertile. Et du coup, cette image curieuse de la montagne qui doit être transportée dans la mer. Transporter la montagne dans la mer. Alors là, souvent, ça peut être une façon de dire, eh bien, on a un jugement de Dieu possible, une sorte d'ordalie, pour reprendre le terme technique. Si vous n'arrivez pas à soulever la montagne et la jeter dans la mer, c'est que vous n'êtes pas un bon croyant. Et on a plein de situations comme celle-ci où on peut se faire accuser de ne pas être un bon croyant parce qu'on n'arrive pas à faire les choses surnaturelles telles qu'elles sont décrites textuellement dans la Bible. Mais transporter une montagne dans la mer, eh bien, comprenons-le comme une hyperbole, c'est-à-dire faire ce qui est a priori impossible, comme exiger qu'il y ait des figues dans un figuier quand ce n'est pas la saison. C'est-à-dire agir contre nature, agir contre l'ordre naturel des choses. Alors, ce n'est pas forcément défier les lois de la physique. Puisque c'est une hyperbole, il faut ensuite ramener cela dans le domaine de notre humanité, c'est-à-dire dans le cadre de notre humanité, avec les lois de la physique, mais aussi les lois sociales, c'est-à-dire tous ces grands phénomènes qui, d'une manière ou d'une autre, nous conditionnent. Vous voyez, quand on est dans une foule, eh bien, il y a des mouvements de foule, aussi bien en termes de panique que de liesse ou d'exacerbation de la haine, etc. Il y a des phénomènes physiques, sociaux, religieux, sportifs aussi, dont il faut tenir compte, mais rien ne nous empêche de pouvoir utiliser ces contraintes-là pour les subsumer et faire de notre vie quelque chose d'infiniment supérieur. Et donc, cette hyperbole, elle nous dit que nous pouvons faire beaucoup plus, beaucoup mieux que ce à quoi on s'est bêtement habitué. Et alors, il est souvent dit qu'il faut rejeter le doute, qu'il ne faut pas douter, hein. S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, eh bien, il verra s'accomplir cela. En fait, ce n'est pas du doute dont il est question dans ce passage, c'est de l'hésitation. Hein, c'est diakrité, diakrinomai, c'est juger entre deux et ne pas savoir finalement prendre position. C'est avoir être entre deux chaises, c'est avoir finalement un pied dans deux barques différentes. Donc, il n'est pas question du doute, mais d'avoir le cœur, qui est le lieu symbolique de la décision. Hein, oui, c'est ça, le cœur dans le texte biblique, c'est ce qui décide, mais c'est d'avoir le cœur divisé. Et de ne pas pouvoir passer par-delà cette division. C'est quand on a le cœur divisé qu'on est incapable de faire un choix. Et quand on n'est pas capable de faire un choix, on n'est pas capable d'adhérer, on n'est pas capable de dire oui. Et du coup, la foi est impossible, parce que la foi, c'est un oui. La foi, c'est un choix. C'est le choix de Dieu, c'est le choix de l'espérance divine, c'est le choix de cette hyperbole, c'est le choix de l'exigence, c'est le choix de la grâce, c'est le choix de la gratuité, c'est le choix de l'intérêt général. Et du coup, la prière, eh bien, c'est ce qui nous permet de prendre conscience que nous sommes pardonnés de nos décisions qui ont parfois une part d'ombre, qui sont parfois avec des conséquences fâcheuses. La maison de prière, puisque c'est ça, hein, la maison de Dieu, c'est ce lieu qui nous permet de pouvoir justement faire quelque chose de toutes nos hésitations, de faire un choix. Sachant que ce choix ne sera jamais tout à fait le choix de Dieu, au sens où il y aura toujours du déchet, il y aura toujours une part d'impondérable non souhaitable. Au fond, c'est toujours un choix marqué par le péché. Voilà. Pour reprendre l'anthropologie classique, calvinienne, biblique aussi, l'homme pécheur est celui qui fait des choix qui le conduisent à avoir des actions qui ne sont jamais entièrement satisfaisantes. Eh bien, la maison de prière, c'est aussi le lieu où on prend conscience que cette infinitude de l'homme est assumée par la grâce et que nous sommes pardonnés de ne pas être dans une situation d'excellence totale. Et donc, nous sommes pardonnés de nos décisions, de nos choix, de nos actes qui ont parfois une part d'ombre, mais ce qui serait, j'allais dire, impardonnable, c'est de ne pas s'ouvrir à l'esprit qui nous permet d'aller vers un horizon, même si nous n'y parvenons jamais complètement, et donc de pouvoir faire un choix, de pouvoir faire le choix d'un sens de la vie, d'une orientation, d'un horizon, le choix d'adhérer à un projet, de nous engager dans une vie particulière, de nous engager sur un chemin de justice, d'en prendre un plutôt qu'un autre. Et nous sommes pardonner du choix que nous faisons, ce qui serait impardonnable, c'est ce qui est dit par ailleurs dans les évangiles, c'est de pécher contre l'esprit, c'est-à-dire finalement de refuser de faire un pas dans une direction au prétexte que faire un choix, c'est se couper avec les autres choix. Vous voyez, comme s'il fallait de temps en temps fermer des portes derrière soi. Comme s'il fallait faire des renoncements. Eh bien oui, il y a des renoncements à faire. Jésus fait le renoncement du figuier stérile, parce qu'en fait, ça serait une sorte de boulet dans notre vie. Eh bien, c'est pareil dans notre vie spirituelle, dans notre vie. Il y a des boulets dont il faut se détacher. Il y a des lieux toxiques dont il faut se séparer. Il y a aussi des personnes toxiques dont il faut se séparer. Eh bien, tout cela va dans le sens de cet épisode qui consiste à prendre soin du figuier, à prendre soin de son propre figuier, de son propre être, car nous le verrons plus tard, nous sommes le temple de Dieu. Et à partir de là, de pouvoir être dans un registre de l'hyperbole, c'est-à-dire faire bien plus que ce que notre nature nous invite à faire, bien plus que ce que nous pensons être capables d'accomplir. Voilà donc pour cette métaphore du figuier qui nous parle du temple, qui nous parle de la Bible, qui nous parle de nous, qui nous parle de notre foi et qui nous parle de cette invitation à être extrêmement exigeant. Et je pense à cette période qui pourrait nous inciter au confinement, à nous terrer, à avoir une vie rabougrie, rétrécie, repliée sur elle-même. Ça, c'est être incurvé, être incurvé sur soi, être replié sur soi. C'est l'attitude de Cain après qu'il a tué son frère Abel. C'est l'attitude du péché. Le péché se tient tapis à notre porte. Et au fond, la meilleure réplique que nous pouvons faire, c'est celle qui est dite par Jésus, exiger que même en période de confinement, il puisse y avoir des fruits. Interpeller l'Église, les politiques, les entrepreneurs, les responsables d'associations, les responsables culturels, pour dire, il n'y a pas un moment où nous devrions cesser de porter du fruit. La période est certainement difficile, compliquée, dure, douloureuse, pénible, mortelle. Elle est mortelle. C'est quand même une période pour porter du fruit. Du fruit en toute saison. C'est ainsi que se terminera d'ailleurs la Bible par cette vision de l'Apocalypse avec un arbre qui plonge ses racines dans un cours d'eau qui sort du temple de Jérusalem. Donc vous voyez, on est en train de nouer une métaphore avec des feuilles Therapeia. Cette fois, ce sont les feuilles qui prennent soin de nous. Dans l'évangile de Luc, on guérit, on soigne, on prend soin de l'arbre, et là, c'est pour que l'arbre puisse prendre soin de nous. Eh bien, prenons soin de nous, pas simplement sur le plan physiologique, pas simplement sur le plan médical, et ayons pour cela une haute exigence de ce que doit être notre existence, même pendant cette période de confinement. On pourrait dire surtout pendant cette période de confinement, mais une fois qu'elle sera finie, et j'espère qu'elle finira bientôt, il faudra continuer à être exigeant. À très bientôt pour continuer sur ce registre de l'exigence et de l'excellence.